Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, avec M. Kirzin, nous allons essayer d'en savoir plus sur l'Iran où vous êtes allé.
Oui,
bonjour.
Oui.
Et bonjour. Puis merci d'être à Radio Grand Ciel pour parler de l'Iran.
Donc oui, je rentre d'un voyage en Iran que j'ai effectué en septembre dernier. Donc un voyage de 25 jours, donc ce qui est quand même relativement important parce que la plupart du temps, les voyages ne se font que sur une quinzaine de jours. Ne serait-ce que pour des problèmes de visa ou autre, on n'a pas le même visa, enfin bon. Et donc l'intérêt de ce voyage, c'était de faire le voyage classique au sud en passant par les grandes villes bien connues, Isfahan, avec Shiraz, Yazd, etc., avec les Tours du Vent. Et puis l'intérêt pour moi, c'était également d'aller au nord de Téhéran, passer donc les montagnes et de se retrouver dans les zones azéries, le long de la mer Caspienne, où le climat est complètement différent puisqu'on est dans un climat subtropical. Ce qui veut dire culture différente, population différente. Et donc, on n'est plus du tout dans le désert du plateau iranien qu'on rencontre partout, puisque l'Iran, en fait, a une altitude moyenne de 1000 mètres. Et il y a même des villes comme Shiraz qui doit être à 1500 ou 1600 mètres. Parce que l'Iran se trouve être en fait un grand plateau coincé entre les dépressions de la mer d'Oman et les montagnes du Zagros, et puis donc l'Himalaya qui a poussé également dans cette région-là. Voilà. Donc c'était un voyage fort intéressant puisqu'il nous permettait de s'immerger un petit peu plus dans différents pans de la culture iranienne.
Donc ça veut dire qu'elle est déjà très diverse.
La culture iranienne est très diverse. Parce que quand on est dans le nord, effectivement, on se retrouve avec des Kurdes iraniens, on se retrouve avec des Azéris, des Arméniens, donc qui n'ont rien à voir avec l'Iran qui est au sud de Téhéran en fait. Téhéran en fait constitue la limite entre le nord et le sud.
Un pays de culture très ancienne puisque là on est dans l'antique Perse.
Voilà, on est dans l'antique Perse. Donc le royaume iranien, on a retrouvé des restes d'écriture datant de 800 ans avant Jésus-Christ. Il y a des écritures cunéiformes également, comme celles qu'on a pu retrouver chez les voisins de
Mésopotamie,
d'Assyrie. Et des tombes également, où déjà les hommes étaient couchés, on sait maintenant que ce sont des hommes, ils étaient couchés sur le côté droit, en fœtus, et les femmes sur le côté gauche. On a retrouvé des tombes qui nous indiquent tout ça.
Donc, le pays de très très vieille culture.
Pays de très très vieille culture. L'Iran, donc c'est le royaume des Aryens en fait. Ça veut dire fidèle et noble en sanskrit. Le sanskrit a été quand même la base de la culture iranienne.
Alors que maintenant ils écrivent avec l'alphabet arabe.
Voilà, maintenant ils écrivent avec l'alphabet arabe, mais ils parlent en farsi, c'est-à-dire qu'ils ont leur langue. Avec aussi des dialectes, puisque évidemment il y a des tas d'ethnies différentes.
Oui, puisque vous donc, évoquiez effectivement voilà. Des régions différentes avec des ethnies
voilà.
Différentes.
Il y a des tas d'ethnies, même dans ce qu'on connaît, nous, de l'Iran en Occident, c'est-à-dire la partie en dessous d'Iran, on va dire la partie désertique, il y a quand même des tas d'ethnies, parce qu'il y a eu des invasions qui venaient de Genghis Khan à Séville, quand même, par là, Tamerlan également. Il y a l'Afghanistan qui a quand même une grande frontière avec l'Iran. Il y a le Pakistan qui a également une grande frontière avec l'Iran au sud. C'est le Baloutchistan. Et donc, on rencontre des Iraniens. D'ailleurs, au début, je croyais que c'était des Pakistanais, moi. Mais en fait, non, pas du tout. Ce sont des Baloutches. Mais ils gardent la façon de s'habiller. Ils gardent le costume pakistanais, comme les Pakistanais qu'on peut croiser ici sur nos marchés avec la
grande chemise. Alors, est-ce que cette zone est chiite quand même ou est-ce qu'ils sont...
Ah, ils sont chiites.
Ils sont chiites
ouais,
quand même.
Ils sont chiites, oui. L'Iran est à plus de 90% chiite. Donc, il y a très, très peu de sunnites. Et après, le reste se répartit. Il y a quelques juifs, quelques arméniens, enfin, de la culture chrétienne orthodoxe. Et quelques chrétiens, mais il y en a... Y en
quelques
a...
expatriés et, qui sont et, rien
voilà,
du tout.
Voilà, voilà. Bon. Et des Zoroastriens aussi, donc.
Ah oui, ça c'est...
Oui, il y a des Zoroastriens quand même, toujours.
D'accord. là, ça nous amène à poser la question, est-ce que le fait religieux est quand même très présent et est-ce que c'est toujours le pouvoir à la religion, aux ayatollahs et,
oui,
et
le autres le pouvoir est totalement religieux. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'experts, donc de religieux, donc je ne sais pas comment sont choisis ces experts, mais enfin bon, ce sont des experts, et qui choisissent le guide suprême en ce
parmi
moment.
Parmi eux.
Donc actuellement, c'est l'ayatollah donc Khamenei qui succède à l'ayatollah Khomeini, qui est donc décédé en 86, je crois, je ne suis plus très sûr. Donc,
je ne sais plus.
Donc c'est Khamenei qui dirige le pays, en fait. Alors,
il y a un premier ministre quand même, et alors, il me semble qu'il y a eu des élections récentes.
Le
qui
premier
ont donné,
ministre, lui, par contre, est élu
nouvelle.
par le peuple, mais ne sont autorisés que certains partis. Et donc des partis qui ont quand même l'allégeance du clergé.
D'accord. Donc il y a une petite ouverture, une petite ouverture à la démocratie. Mais
voilà.
On peut choisir entre ceux qui sont déjà au préalable désignés par le pouvoir.
Voilà. Donc actuellement, le Premier ministre actuellement en place, Rouhani, lui, il est quand même relativement souple par rapport au précédent, la Ahmadinejad, qui lui était très 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 dur. Parce que comme dans toute société, il y a forcément des gens qui sont des tendances plus libérales, moins libérales, plus autocratiques. Enfin voilà, il y a toujours des gens qui ont des...
Puis là, peut-être que les Iraniens commencent à vouloir secouer un peu la chape religieuse qui était tombée après la chute du Shah d'Iran et le pouvoir religieux.
Voilà. Mais bon, le régime est quand même très, très, très implanté. Ça, je pense que ça ne va pas se déboulonner comme ça. Mais malgré tout, la population, il y a 60% de la population qui a moins de 30 ans. Donc tous ces jeunes que vous croisez dans la rue, ce sont les mêmes que vous croiseriez à Paris, à New York ou à Londres ou à Amsterdam. Je veux dire, ils ont tous leur smartphone, ils sont au courant de tout, largement peut-être même plus que nous, parce qu'eux, ils ont un désir de liberté et d'ouverture que nos démocraties, peut-être un peu plus ramollies, n'offrent pas. Enfin, les gens ont vraiment envie de s'en sortir, quoi.
D'accord.
Voilà. Et donc 60% de la population, mais malgré tout, ils obéissent à l'ordre des mollahs. J'ai eu l'occasion
de... De toute façon, ils ne peuvent peut-être pas faire autrement.
Mais ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils se trouvent...
On est dans le...
Ils se trouvent embarqués, et puis voilà, après, qu'est-ce qui s'y passe, on ne sait pas toujours.
C'est quand même pas un pays très tendre vis-à-vis des gens qui contreviennent à la loi.
Voilà. Donc, il faut savoir qu'en 2013, il y a eu 800 pendaisons recensées.
Oui, donc...
Dont quelques lapidations. Voilà.
D'accord.
Les femmes doivent absolument tenir la règle du foulard ou du niqab, mais au moins le foulard. Et puis cacher les cheveux et cacher les chevilles.
Alors, par exemple, très concrètement, les femmes qui étaient dans le voyage avec vous, elles devaient s'habiller aussi avec cette jupe longue et,
voilà,
et avoir un foulard.
Voilà, en fait, c'est une tunique qu'elles portaient la plupart du temps sur un pantalon. Soit des pantalons de rando, soit des pantalons plus légers, mais sur lesquels les chevilles étaient plus ou moins découvertes. Mais enfin bon, il n'y a jamais eu de problème réellement avec cet aspect des choses. Mais par contre, les cheveux étaient toujours couverts. Toujours couverts. Et ça, il n'était pas question de sortir dans la rue sans... Sauf à de rares exceptions où quelquefois les femmes dans le bus qui nous transportaient dans l'autocar se découvraient. Mais le foulard était remis très
dès
vite
dès
qu'on descend du bus ou même au cours d'un checkpoint, puisqu'on a eu des visites, on a eu des contrôles dans l'autocar quand même.
Donc on ne fait pas n'importe quoi quand on va en Iran?
On ne peut pas faire n'importe quoi, non.
Alors qu'est-ce qui vous a attiré par ce pays? Parce que finalement, dans la description que vous faites, à la fois, c'est vrai que c'est un pays de vieille culture, de vieilles pierres, de vieilles traditions. Enfin, il y a vraiment toute une culture qui doit être fascinante. Et puis en même temps, cette violence quand même.
Alors en fait, déjà j'ai des amis qui sont allés il y a une dizaine d'années et qui m'avaient dit que l'Iran, ça faisait partie des gens qui voyagent, m'avaient dit que visiter l'Iran, pour eux, c'était une des trois plus belles découvertes qu'ils avaient pu faire dans leur découverte du monde.
Donc vous étiez très tenté.
Donc j'étais tenté. Non, connaissant ces gens-là, avec lesquels j'ai des affinités, s'ils disent que c'est chouette ou que ça vaut le coup d'y aller, c'est que ça vaut le coup. Bon, ceci dit, il y a 10 ans, c'est plus 2014. Mais en plus, j'étais allé ces dernières années en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Donc, j'avais déjà certaines idées de l'Asie centrale et en particulier donc de l'Ouzbékistan, puisque en fait, tout ce qu'on peut voir en Ouzbékistan est issu de l'architecture et de la culture iranienne, quasiment.
Oui. Mmh.
Donc, puisque toutes les mosquées, les mausolées, les médersas, etc., ont été faites par des architectes et des artistes iraniens. Mais de façon beaucoup plus récente. Donc, je m'étais dit, je vais plutôt aller voir aussi les originaux.
Voilà.
Donc, c'était descendre un petit peu plus bas. Et puis, parce que pour d'autres raisons, j'aime bien le désert, puis ma curiosité. Parce que la culture iranienne n'est pas la culture moyenne-orientale.
Du bédouin du désert.
On n'est pas en Arabie Saoudite. Ils sont très différents. D'ailleurs, ils ne sont pas des Arabes. Déjà, ils disent bien eux-mêmes, ce ne sont pas des Arabes. Et ils sont de culture chiite, puisque c'était le premier schisme après Mahomet. Donc, ils sont très différents et ils le font bien sentir. Voilà. Donc, ils ont eux-mêmes subi des influences venues donc de l'Asie centrale, de la Mongolie, plus à l'est de l'Inde. Donc, ils ont quand même eu des modifications dans leur culture, des influences qui venaient de l'extérieur.
Mais ça se traduit dans l'architecture ?
Ça se traduit dans l'architecture. Ben, les minarets sont un petit peu différents et ils ont des portails, des iwans qui sont très gigantesques. Les mosquées sont vraiment très belles. Les bleus et les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'on peut trouver en Ouzbékistan, par exemple. Il y a des bleus un peu différents, il y a des noirs aussi qu'on ne trouve pas forcément dans les autres pays. Il y a des petites différences, mais qui sont très minimes. Enfin, pour moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste, je ne peux pas le dire. Et c'est la grandeur des mosquées. Quand on est à Ispahan, la mosquée qui est sur la grande place, qui est une des plus grandes places du monde, est quand même énorme. Il y a des bazars aussi qui sont magnifiques. Quand on peut monter sur les toits avec les coupoles, c'est des découvertes assez fantastiques.
Eh bien, vous nous faites rêver, on va rêver un peu dans une pause musicale avant de reprendre. Bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et nous visitons l'Iran en compagnie de M. Kirzin. Alors là, on a évoqué la géographie, la population extrêmement jeune, la culture très ancienne. Parlons un peu des choses modernes. Alors, l'agriculture dans ce pays qui est quand même à la fois désertique et près des montagnes, donc il y a une irrigation. Comment ça se présente et comment sont les champs ?
Alors, je crois qu'effectivement, il faut bien distinguer la partie nord, dont la partie subtropicale du pays, dans lequel on fait de la culture du riz, on trouve du thé, du tabac, enfin des cultures quasiment subtropicales, avec les fruits correspondants, les grenades, les mangues, etc.
Donc on mange beaucoup de fruits ?
Donc on mange beaucoup de fruits. Et d'ailleurs, à propos du riz, ce que l'on peut dire en tous les cas, c'est que l'embargo leur a servi. Parce qu'en fait, il y a encore une dizaine d'années, ils achetaient une grande partie de leurs besoins en riz, puisque la nourriture est beaucoup à base de riz. Ils achetaient 40 ou 50% de leur consommation dans les pays du sud-est asiatique, Thaïlande, Chine peut-être, je ne sais pas, enfin bon, dans tous ces pays. Alors que du fait de l'embargo, ils ont développé la culture du riz et maintenant ils arrivent à faire 3 récoltes de riz par an. Donc ça veut dire que ça leur a été très profitable et ils ont même développé, parce qu'ils ont des centres de recherche très avancés, et ils ont mis au point des nouvelles variétés donc, qui permettent justement de faire des récoltes plus rapides. Alors peut-être avec une perte nutritive d'après ce que j'ai cru comprendre, mais bon, en tous les cas, ils ne sont plus dépendants de qui que ce soit. D'ailleurs, je crois que c'est une des grandes leçons qu'ils peuvent tirer de cet embargo, c'est qu'en fait, pour vivre, ils n'ont quasiment besoin de personne, ils peuvent quasiment vivre en autarcie. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz qu'ils vendent, ils font partie des premiers producteurs du monde, donc ils tirent un revenu maximal là-dessus.
Ils peuvent en vendre ou ne pas en vendre, et puisqu'ils en ont pour eux-mêmes.
Ils en ont pour eux-mêmes, l'essence est à quelques centimes d'euros, enfin c'est assez rien du tout. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a un système autoroutier, bon enfin, on va en parler peut-être après, parce que pour l'instant, on est dans l'agriculture. Donc, ils ont du thé, ils ont plein de fruits, et ils cultivent la pistache également. C'était le premier producteur mondial de pistache, même avant la Turquie. Bon, par contre, comme leurs exportations ont diminué, les grands acheteurs de pistaches, en fait, c'était les Américains. Et les Américains, du fait de l'embargo, eux, ont développé leur propre production de pistaches. Mais bon, apparemment, ils vendent quand même toute leur production. Donc, il y a d'immenses pistachiers dans la région de Yazd. Et donc, on peut trouver également des hectares et des hectares de culture du maïs. Alors ça, c'est toujours assez étonnant de voir la culture du maïs en plein désert, entre deux chaînes de montagnes, dans une vallée, des hectares et des hectares de maïs. En fait, c'est parce qu'ils ont développé depuis l'Antiquité, enfin je dis l'Antiquité depuis 2000 ans, ils ont développé des systèmes d'irrigation très sophistiqués.
Oui, l'eau descend des montagnes.
L'eau descend des montagnes puisqu'ils ont des montagnes. Mmh. Il y a deux chaînes principales. Donc la chaîne nord et la chaîne médiane, donc oui. Ils récupèrent l'eau parce que les fleuves, ils sont pas très très efficaces, je veux dire, pour l'agriculture. Mais l'eau qui arrive des montagnes, ils la récupèrent tout de suite. Elle est tout de suite canalisée dans des canalisations donc souterraines, ce qui permet donc une moindre évaporation. Et ensuite, ils la dispatchent là où ils veulent la dispatcher, voilà, tout simplement, et avec des puits. Il y a des puits qui sont dans certaines zones. Et d'ailleurs, les puits, on peut les remarquer, même dans le désert, ça fait des espèces de, j'allais dire, une grande...
Une grande auréole verte, non ?
Non, une grande taupinière.
Ah, d'accord.
Oui, parce qu'il y a une... Mais une grande, c'est-à-dire, c'est une taupinière qui aurait
5,
6, 7 mètres de haut et peut-être 20 ou 30 mètres de large, quoi, avec un trou central. Voilà, et donc on peut les repérer. Voilà. Donc il y a de l'irrigation. Dès l'instant où ils peuvent récupérer du sol et le fertiliser, en fait, bah, ils le font. Donc ce qu'ils font, ils sont dépendants de quasiment, ils peuvent être dépendants de rien.
Alors ça, c'était l'agriculture. Effectivement, il y a aussi du pétrole.
Alors il y a aussi le pétrole et ils ont toutes les richesses minières possibles, imaginables. Il y a du cuivre, il y a de l'aluminium, enfin la bauxite, et ils ont l'uranium. Donc, ce qui fait que par rapport à l'uranium, donc, ils peuvent absolument faire
tous les débats du nucléaire que l'on entend
aujourd'hui. Tous les débats du nucléaire qui a lieu actuellement.
Et on vous en a parlé ? On n'en parle peut-être pas
quand on visite. On n'en parle pas trop, mais on passe quand même près des centrales. Hein. À Téhéran, ouais. Il y a quand même des centrales qui sont toutes proches de Téhéran. Je me souviens à la sortie d'Ispahan, quand on montait sur Téhéran, j'ai bien vu... Ouais, il y avait bien 8 centrales, je crois, je me souviens que j'avais répertorié.
Vous aviez compté ?
Ouais, voilà. Donc, il y a de l'électricité partout, en fait. Hein.
Donc, c'est un pays développé avec une éducation, une culture.
Extrêmement développé.
La culture est ancienne. Est-ce que les gens vont à l'école ?
Beaucoup plus qu'on le croit.
Oui, on va à l'école.
Les enfants vont à l'école. Il y a 80% d'alphabétisation. Donc, les enfants vont à l'école à partir de 5 ans. Alors, ils ont un système primaire, un peu, sans doute à peu près l'équivalent d'une autre. Et ensuite, il y a un système de collège. Où d'emblée, les gamins sont repérés pour savoir, disons, à partir de la troisième année du collège, les gamins sont déjà dans des filières plus professionnelles ou plus spécialisées ou plus de culture générale ou carrément tout de suite littéraire ou scientifique. Enfin, il y a déjà une distinction qui se fait. Le lycée conforte ces distinctions et ensuite l'entrée dans l'enseignement supérieur se fait par concours. C'est-à-dire que tout le monde ne rentre pas dans les filières
de l'enseignement supérieur
comme ça. Il doit y avoir également des filières commerciales puisque les Iraniens sont des commerçants, donc il doit bien y avoir aussi des écoles et privées.
Alors dans la rue maintenant, parlons un peu de ce qu'on voit, enfin des gens de la rue et puis aussi peut-être de ces maisons de force dont vous m'avez parlé qui sont un peu
Alors dans la
particulières.
Rue, dans la rue, quand on arrive à Téhéran, donc c'est une très grande métropole, 13-14 millions d'habitants, quelque chose comme ça, et qui va se développant d'une façon fantastique. On voit que ça construit partout. Et donc on arrive par des autoroutes à quatre voies.
Il y a des voitures dessus.
Il y a des embouteillages à Téhéran qui sont pires qu'à Paris le samedi soir autour de la Concorde. Hein. C'est le jour de l'an, on peut dire, comme à Paris tous les jours là-bas. Il y a énormément de voitures. Alors, il y a des vieilles voitures qui étaient construites par les Iraniens. Et maintenant, on retrouve des 4x4, comme chez nous. Hein. Il y a des voies de circulation à quatre voies partout. Et donc, on circule comme dans toutes les grandes villes. Téhéran, c'est une ville avec des embouteillages complètement fou. Et comme la ville est relativement divisée par rapport à des sens uniques, ce qui fait que quand on loupe un carrefour, on peut être obligé de refaire 3-4 kilomètres pour retrouver le bon sens de là où on veut aller, parce que il y a tout ce système et après on va se retrouver dans d'autres embouteillages. Donc c'est assez épouvantable. Hein. C'est largement pire que chez nous. La pollution, c'est quelque chose de faramineux. Ah oui, il y a une pollution énorme. Voilà.
Alors ça, c'était pour la rue. Et alors, dans les quartiers, je sais pas, il y a un souk à Téhéran,
il y a un marché, un bazar, on dit un bazar. Alors, il y a un bazar qui est très important. Personnellement, je n'y suis pas allé dans le bazar de Téhéran, mais j'ai fait d'autres bazars ailleurs.
Où on trouve tous les produits interdits ?
On trouve tous les produits interdits, voilà. Vous avez le dernier smartphone à la mode, enfin, vous avez tout. Tout, absolument tout.
Et les passes d'Aran les ont aussi, donc ils n'empêchent pas le reste de la population de
les
avoir.
Voilà, et de toute façon, tout est filtré au niveau d'Internet. Mais je crois que comme partout, il y a des hackers, enfin il y a des gens toujours plus subtils qui arrivent à s'en sortir. Quoi.
C'est ce que j'allais me poser comme question, parce qu'en fait, ce n'est pas le tout d'avoir le support matériel. Encore faut-il avoir le droit de pouvoir parler ou converser avec les autres, avec ailleurs.
Personnellement, en arrivant à Téhéran, on avait repris un avion pour Tabriz et il y avait 3 heures de retard. Donc, en attendant dans le hall, nous avons été abordés par des jeunes, nous demandant si on parlait anglais, d'où on venait. Donc, on parlait un peu anglais et puis français. Ah bon, très bien. On a donc pu discuter avec ces jeunes avec qui j'ai échangé des adresses mail. Et donc, il m'arrive d'avoir des mails de Téhéran. Voilà. Par contre,
on ne dit peut-être pas n'importe quoi dans ses mails.
Je ne dis rien. Je demande si ça va. Là. Et j'ai envoyé des photos récemment que j'ai faites à Paris. Donc j'ai envoyé des photos de Paris. Mais j'ai fait ça récemment. Donc je ne sais pas si, s'ils les ont reçues, en fait. J'ai demandé. Après, j'ai renvoyé un mail sans rien. Simplement demander si les photos étaient arrivées. Mais je n'ai pas eu de réponse. Alors je ne sais pas si c'est arrivé ou pas. Mais en tous les cas, moi, j'ai reçu des mails. J'en ai reçu deux. De mails d'Iran. J'ai même reçu un matin un coup de téléphone sur mon portable, mais c'était quasiment inaudible. Mais je savais que c'était lui. Je savais que c'était ce jeune avec qui j'avais sympathisé qui m'envoyait un appel téléphonique.
D'accord. Et alors parlons un peu de ces maisons de force.
Alors les maisons de force, en fait, c'est une longue tradition iranienne.
De lutte.
En fait, c'est de lutte. Mais c'est en même temps une façon d'entrer dans des états de conscience un petit peu différents, parce qu'il y a de la musique. Je ne vais pas dire que c'est une forme de transe, mais c'est peut-être issu de certains rituels chamaniques, je ne sais pas très exactement. Toujours est-il que vous pouvez imaginer le cirque d'hiver ou le cirque Pinder ou n'importe quel petit cirque qui vient dans nos communes. Et vous avez là des jeunes qui font des exercices de culturisme au sol ou avec des haltères ou avec des masses. Ils utilisent beaucoup des masses et des masses qui vont jusqu'à 15-20 kilos, qui manipulent un peu comme des jongleurs. Et d'autres appareils que je ne connais pas, qui manipulent au-dessus de la tête. Et ensuite, il peut y avoir des combats d'un club à un autre. Enfin là, je ne sais pas non plus très bien comment ça se passe. Mais toujours est-il que c'est un sport national.
Une lutte traditionnelle, donc.
C'est une lutte traditionnelle. Et les Iraniens, si certains d'entre vous suivent les résultats des Jeux Olympiques en lutte, eh ben, ils verront qu'il y a vraiment une culture de la lutte et de la force dans ce pays. Il y a toujours des médaillés olympiques, quelle que soit la catégorie de poids, qui exercent au moment des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. Ça, c'est clair.
Thank you. Alors là, on a évoqué donc la lune, quelques aspects particuliers. Les jardins, on parle souvent des jardins.
Ah ben les jardins sont magnifiques. Ce sont des jardins toujours où l'eau coule. Donc les jardins iraniens, bah, il suffit de se rapporter à toute cette poésie, cette mythologie perse. L'eau est partout, les jardins sont magnifiques, ils coulent par espalier et il y a des fleurs et autour du jardin, vous avez le hammam, vous avez tout ce qui fait la vie sociale d'un petit groupe. Et il y a également...
Les Iraniens s'y promènent, ils sont nombreux.
Les Iraniens se promènent, ouais. On rencontre beaucoup d'Iraniens dans les musées. Dans les musées, dans les jardins, dans les mosquées, on rencontre des Iraniens qui viennent par exemple de l'Azérie, ils viennent en costume. Donc on les voit arriver en costume et ils vont visiter les mêmes lieux que nous, exactement les mêmes lieux. Et bien souvent, c'est l'occasion d'une rencontre.
Oui, ce que j'avais posé comme question. Ouais. Alors, les rencontres sont faciles?
Alors, les rencontres, ça, c'était une des grandes découvertes de ce pays. J'étais étonné de voir la facilité avec laquelle les gens rentrent en relation avec nous. Ce n'est pas du tout une barrière.
Mais vous avez pu aller chez l'un ou chez l'autre?
Ah oui, j'ai été invité. Oui. On était invité à prendre un thé, on se promène dans un village, on sympathise avec des gens et vous venez prendre un thé, on passe une heure et on discute. Et on discute de choses et d'autres. Donc ils nous posent des questions sur nous et nous on pose des questions sur leur façon de vivre, etc. Et tout à fait, et on boit le thé, on partage le thé, toujours le thé, avec un petit gâteau.
Voilà. D'accord, donc là, véritablement, aussi la possibilité d'une vraie rencontre et pas simplement un effet touristique.
Ah non, pas du tout. Je pense que c'est sincère. Et les Iraniens, le soir, donc au mois de septembre, il fait encore très très bon, ils s'installent dans les parcs, dans les jardins, sur le trottoir, dans la rue, autour des mosquées. Ils sortent un grand tapis et ils s'installent là, ils mangent. Donc, ils mangent ce qu'ils ont préparé. Les Iraniens sont très férus de glace, donc il y a je me souviens d'un marchand de glace en particulier très réputé à Shiraz, il fallait faire au moins une demi-heure de queue pour arriver. Ah oui, c'est comme à Bertillon à Paris, hein, c'est pareil, hein. faut pas croire. Et les gens vont manger des glaces, enfin ils mangent des fruits, ils s'installent et ils discutent. Et là on est facilement interpellé, ils nous demandent à être pris en photo. Il nous demande d'être pris en photo. Le nombre de fois où j'ai pu être demandé, enfin quand je dis je, c'est les gens du groupe, hein, c'est pas que moi, et puis les autres, les Allemands, les Italiens, pareil. Hein. Mais il y a beaucoup de Français quand même. Hein.
Vous prenez les photos et après vous leur envoyez.
Et voilà. Il y a certains, j'ai des adresses mail, mais bon, j'ai pas encore tout classé. Mais j'ai des adresses mail à qui il faudrait que j'en envoie, quoi. Et ils nous prennent aussi en photo.
D'accord.
Ils sont très, très... Alors après, on prend une photo, deux photos, et c'est toute la famille, et puis les gens d'à côté qui viennent pour être sur la photo, et puis voilà, et puis on boit un verre de thé avec eux, et puis voilà, et on se promène comme ça toute la soirée.
Donc
c'est étonnant.
Une société iranienne, à la fois qui tient une grande culture, qui est éduquée, qui accepte la rencontre de l'autre.
Ah oui, moi j'ai trouvé que c'était très ouvert. Hein. J'ai trouvé que c'était très ouvert. Bon, on est dans un pays totalitaire, mais les gens sont très ouverts. C'est un peu contradictoire, mais en fait, non. Je pense qu'ils ont une culture de l'hospitalité. Et je crois qu'en fait, vous savez... Tous ces pays, en fait, n'ont jamais connu une démocratie telle que nous, on peut la connaître ici. Donc, en fait, ils s'adaptent. Ils s'adaptent au totalitarisme dans lequel ils vivent.
Mais en même temps, ils le poussent un peu, ils en poussent les limites. Et finalement, ils font eux-mêmes leur transition vers la démocratie.
Voilà, je pense. Oui, parce que les jeunes, quand même, souhaitent...
Plus de liberté.
Souhaite plus de liberté.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Michel Girzin, de nous avoir emmenés en Iran. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.
Merci de m'avoir accueilli.